Bonjour à tous, Jean-René l'Admiral au micro. Aujourd'hui, avec Nicole, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir Jean-Yves Le Gallou. Notre émission, j'ai donné comme titre à notre émission « Les Bobards d'or », puisque c'est le sujet, une critique parodique de la désinformation médiatique. Et nous allons passer une heure, 55 minutes, à présenter cette cérémonie parodique des Bobards d'or, qui en est maintenant déjà à son 17e épisode. Ça fait 15 ans de lutte contre le mensonge médiatique. Et alors peut-être, je ne veux pas occuper trop le micro parce qu'il faut faire des changements de voix. Et donc, je vais vous demander, Jean-Yves Le Gallou, de me dire quelque chose.
Bah, écoutez, c'est très simple. Les Bobards d'or ont été créés pour contester de manière humoristique, effectivement, la désinformation médiatique. Et pour saper, en quelque sorte, la crédibilité des médias de grand chemin, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés.
Jean-Yves Le Gallou, les médias de grand chemin, c'est votre traduction des médias mainstream.
Voilà, vous voyez, c'est adapté. Alors, c'est un petit jeu de mots de surcroît.
Oh, oui, très bien. Oui.
Et donc, ça permet d'employer le français sur Radio Courtoisie, ce qui est une bonne chose, et quand même d'indiquer que ce sont en quelque sorte des forbans. Qui pratiquent la fausse monnaie de l'information.
Voilà, exactement. Donc Nicole me fait le plaisir et l'honneur d'être mon assistante. Et,
oui, bonjour à tous.
Et je vais lui demander de faire peut-être une présentation rapide des éléments.
Eh bien justement, nous recevons Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia et cofondateur de l'Institut Iliade. Et nous pensons maintenant à réserver la soirée du 20 mai de 19h30 à 23h dans la salle Athènes, 8 rue d'Athènes à Paris, 9e, et tout, métro Trinité, Saint-Lazare, c'est très facile d'accès. Et vous entendrez Jean-Yves Le Gallou, et c'est surtout la grande soirée des Bobards d'or.
Voilà, alors... ce qui est, jusqu'à présent, moi j'ai assisté à une bonne demi-douzaine de Bobards d'or. Et alors, pendant longtemps, vous aviez le théâtre du gymnase, Marie-Belle, et c'était le grand spectacle. Ça gardait toute sa puissance critique et intelligente. Et en même temps, il y avait un côté grand spectacle. Et puis, si j'ai bien compris, il y a une censure, des pressions exercées sur le théâtre du gymnase qui a fait que vous ne l'avez plus.
Oui, absolument. Alors... le théâtre était tout à fait adapté parce
magnifique.
Que l'idée des Bobards, c'est pas de faire une conférence ou une série de conférences, c'est de faire un spectacle. Et donc le théâtre du gymnase, c'était formidable parce que c'était un vieux théâtre mais avec beaucoup de charme.
Un théâtre à l'italienne.
Avec à l'italienne, avec des étages, des voilà, et il pouvait y avoir de l'ambiance. Il y avait dans le haut du théâtre, il y avait les plus jeunes qui s'agitaient un petit peu. C'était vraiment très bien.
Au poulailler. Et
le poulailler. Merci de me rappeler le terme, le poulailler.
C'était, à chaque fois que je suis à lui, c'était plein.
C'était plein. Et puis, ça n'a pas plu à monsieur Yann Brossa, qui est un sénateur communiste de Paris, a d'ailleurs comme caractéristique d'être un descendant direct d'un homme du KGB, qui était un agent soviétique en Israël, où il a fait de la prison. Enfin, pas Yann Brossa, le grand-père, mais ce garçon a gardé l'esprit extrêmement KGBiste, extrêmement soviétique, et il a fait pression sur le théâtre. Il a dénoncé le fait que le théâtre nous accueillait, et le théâtre, qui avait d'ailleurs changé de propriétaire parce que les propriétaires habituels avaient cédé la main à leurs enfants et à leurs gendres, eh bien, les nouveaux propriétaires ont cédé à la pression et nous ont retiré le théâtre en nous accordant une petite indemnité, en tout cas le remboursement des sommes qu'on avait engagées pour cela. Et je dois dire que je ne suis pas très indulgent avec les gens qui capitulent, mais au cas particulier, la situation des théâtres parisiens ou de certains théâtres parisiens fait qu'ils dépendent de subventions publiques et que par conséquent, ils n'ont pas de liberté et que ce théâtre ne pouvait sans doute pas se permettre de s'opposer à la mairie socialo-communiste de Paris, qui est une mairie totalitaire. Et M. Yann Brossa, étant un esprit totalitaire particulièrement aiguisé, en quelque sorte. Voilà, alors on est revenu dans cette salle Athènes Service, qui est d'ailleurs la salle où nous avions commencé, qui entre-temps a été modernisée. C'est une belle salle. Cela permettra de faire, je pense, une belle cérémonie. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu le théâtre.
Le grand spectacle. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait un peu moins de monde, mais ça restait tout à fait passionnant.
Mais vous étiez aux agriculteurs avant, dans la salle des agriculteurs, qui est devenue la salle Athènes.
Oui, c'est ça, voilà. Ouais. La salle des agriculteurs est devenue la salle Athènes Service. En étant modernisé, c'est une belle salle moderne, mais ça n'a pas le charme d'un théâtre, théâtre ancien.
Et il n'y a pas non plus le volume, l'espace.
Il n'y a pas non plus le volume.
Parce que dans le théâtre, il y avait trois fois plus de place qui était pleine.
C'est un grand théâtre. Le théâtre Marie-Belle est un grand théâtre.
Très grand théâtre, c'était magnifique. Hein. Mais on n'est pas étonné parce que...
Oui, mais venir rue Athènes Service, c'est aussi marqué et participer à cette nouvelle cérémonie des Barres d'Or. C'est aussi marqué qu'on ne cède pas à la censure.
Voilà.
Et que si on nous retire un lieu, eh bien, on en trouve un autre. Voilà.
Et donc, moi, personnellement, mais aussi ceux que j'appelle mon fan club, nous restons fidèles et nous venons manger un morceau avant de revenir, pour moi, le 8e Bobard d'Or.
Voilà.
Et j'essaye de contribuer à maintenir un courant. Et l'idée, c'est que... Et à la fois, on marque notre désir de résister, mais en même temps, on soutient une entreprise d'information qui est menacée. La preuve, c'est qu'il y a eu cette censure qui illustre une tendance depuis un certain temps. Moi, j'ai connu l'époque où les subventions publiques étaient attribuées en fonction, semble-t-il, de la qualité des manifestations. Maintenant, c'est clivé politiquement.
Ah, totalement. Si vous voulez, on est passé d'un système où la gauche avait et a toujours le monopole des subventions et où maintenant, elle revendique le droit à l'interdiction. Le droit à l'interdiction de ce qui ne lui plaît pas. Et donc, par différentes méthodes, soit des pressions directes sur les autorités... On demande au préfet ou au préfet de police d'interdire telle ou telle manifestation, ou par pression sur les lieux où les manifestations s'organisent. Et ça va même extrêmement loin, puisque vous voyez qu'actuellement, il y a une opération festive, une manifestation festive qui s'appelle le Canon français, qui consiste à réunir des gens pour dîner, pour chanter et pour danser. Et il y a maintenant une pression considérable auprès des salles, voire auprès des préfets, pour interdire simplement des banquets non politiques, mais par le simple fait qu'il s'agisse de banquets français, on veut les interdire. Et le recteur de la mosquée de Paris, qui est un agent du gouvernement algérien par ailleurs, a mis en cause l'un des derniers banquets français au motif qu'il y avait du porc rôti et qu'à partir de là, c'était discriminatoire parce que s'il y avait du porc rôti, il ne pouvait pas y avoir de musulmans et donc c'était discriminatoire et donc il faudrait les interdire. Et M. Nunez, le ministre de la police, interrogé à l'Assemblée nationale, ne l'a pas complètement exclu. Il a dit « nous allons regarder les choses ». Il n'a pas dit qu'il allait le faire, mais il a dit « nous allons regarder les choses ». Donc on est vraiment dans un pays qui était le pays des libertés. Enfin, c'est ce qu'on disait, c'est ce que moi j'ai appris il y a fort longtemps.
Ce qui était quand même le cas.
Et aujourd'hui, on devient un pays à la fois de spectacles subventionnés, d'associations subventionnées, et en même temps, de la part de ces associations et de ces spectacles subventionnés, un pays qui veut interdire ce qui ne correspond pas, au fond, à la doxa de la gauche ou de l'extrême gauche.
Voilà. Je suppose que vous n'êtes pas agréé par le pass culture.
Ah non, nous ne l'avons, l'avons pas sollicité. Je doute qu'on, qu'on l'ait obtenu. Oui.
De solliciter-le.
Oui, peut-être, ça pourrait être amusant. Oui.
Ne fût-ce que pour officialiser le refus.
Oui, absolument. Oui.
Je dois dire,
tout à fait, c'est une bonne idée. Ouais.
Moi, j'ai un je milite comme on peut. À mon âge, je milite autant que je peux pour la France. Et alors, parmi ces militantismes, j'essaye de drainer un public pour les bobardeurs. Et puis, je considère que manger du porc est un acte militant. Personnellement, je n'aimais pas trop le porc. J'aime le mouton et le bœuf. Et le poulet, bien sûr. Mais je me suis dit, maintenant, manger du cochon et boire de l'alcool, ça, j'ai toujours bu de l'alcool. Mais boire de l'alcool et manger du cochon, c'est un acte militant.
C'est devenu un acte de résistance, oui, voilà. En quelque sorte. Mais ce n'est pas un acte de résistance désagréable. Donc,
non, non,
voilà,
absolument.
On peut tout à fait joindre l'utile à l'agréable, en l'occurrence. Voilà.
Et alors, Jean-Yves Le Gallou, disons quelques mots de la prochaine cérémonie, de prochain épisode que Nicole a annoncé pour le 20 mai prochain. Peut-être pouvez-vous en dire quelques mots sans forcément déflorer le spectacle.
Oui, alors, si vous voulez, le thème sera un peu une recension de 15 ans de Bobard du service public. C'est-à-dire qu'on a repris ce qui sera présenté par deux présentatrices. On va faire, ah là je vais employer un mot anglais, alors le best-of, non c'est pas bien. Le florilège, voilà. Le florilège.
Sauf que c'est un peu flatteur, florilège.
Oui, parce que si vous voulez, l'esprit des bobards, c'est quand même de récompenser ceux qui font les pires bobards. Donc c'est assez normal d'utiliser un mot flatteur. Donc le florilège.
A contrario.
Des 15 dernières meilleures. Des 15 années, mais dans le service public.
Voilà.
C'est un peu, en quelque sorte, dans le prolongement de la commission à l'oncle. La commission à l'oncle étant, à certains égards, le prolongement de notre travail de critique des médias. Et donc, on va se concentrer sur quelques-uns des meilleurs bobards au cours des 15 dernières années. Je peux vous en citer deux, par exemple, qui sont à la fois, pour l'un, assez particulièrement concernants, pour l'autre, plutôt drôle, il faut bien le dire. Sur le premier, c'est l'affaire Mera. L'affaire Mera, vous vous souvenez, c'est un terroriste islamiste qui avait attaqué des militaires et des enfants à la sortie d'une école juive. Attaqué et assassiné des enfants à la sortie d'une école juive. Bon. Eh bien, il était présenté sur le service public, avant qu'on l'arrête, qu'on le neutralise, il était présenté comme bleu, blond, aux yeux bleus. Voilà.
Ah oui.
Blond aux yeux bleus et nazi. Voilà. Bon. Alors, c'était d'ailleurs assez extraordinaire de pouvoir dire qu'il était blond aux yeux bleus, puisque le type opérait en moto avec un casque. Et donc, les médias, et les médias de service public, pas seulement les médias de service public, mais aussi les médias de service public, avaient dit il est blond aux yeux bleus et il est nazi. Voilà. Donc, vous voyez, et ça, alors on va dire, oui, mais après, on a vu que c'était pas le cas, on a vu que c'était un islamiste. C'est vrai. C'est vrai, mais le fait de mentir et de répéter un mensonge, même s'il est démenti après, ça n'est pas sans efficacité parce que ça rentre dans l'esprit des gens.
Oui, oui,
et
oui.
Très souvent, un mensonge médiatique, même quand il est
reconnu faux,
il s'est quand même inscrit dans la tête des gens. Je vais vous citer un exemple, alors là, qu'on citera sûrement à la cérémonie des Bobardor, qui lui n'est pas ancien, mais qui est récent. Il est arrivé pour le 8 mai. Pour le 8 mai, on a annoncé sur toutes les radios de service public et les médias de service public qu'à Carpentras, qui est une ville qui a été conquise par le Rassemblement national, à l'occasion du 8 mai, on avait chanté « Maréchal, nous voilà ». Alors, c'est une information dont on peut penser, quand on l'entend, qu'elle est fantaisiste et on ne voit pas Monsieur de Lépineau, le nouveau maire de Carpentras, flanqué d'une équipe assez solide, au demeurant, avec l'ancien directeur de campagne de Monsieur Zemmour, enfin une équipe assez solide, on les voit mal, s'amuser à sonoriser la ville avec « Maréchal, nous voilà » le jour du 8 mai. Enfin, on voit très bien que c'est une information farfelue. Bon, eh bien, tous les médias de service public l'ont prise et reprise, et M. Édouard Philippe, qui se prétend candidat à la présidence de la République, l'a aussi reprise. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est une radio locale qui avait été financée par la précédente mairie,
qui était de quelle sensibilité?
Centre-gauche, on va dire, voilà. Gauche-centre-gauche, qui a diffusé ce message le jour du 8 mai en prétendant aujourd'hui, mais c'était une erreur. Voilà. Mais voyez donc, c'est une manipulation qui est reprise sans aucun esprit critique. Parce que un journaliste normal, à minima, il appelle le maire, il lui dit « Mais c'est bien vous qui avez diffusé, qui avez fait diffuser ça ».
Pas oui, du tout.
On balance l'info qui n'est pas complètement info, puisqu'il y a eu bien eu effectivement une diffusion de ce message, mais aucunement en rapport avec la mairie elle-même. C'est par hasard, c'est à Carpentras. Et Carpentras, c'est évidemment une affaire plus ancienne, mais vous nous souvenez sûrement, où en 1990, il y a eu une profanation du cimetière juif, qui est un très beau site d'ailleurs, dans les Cyprès, qui a été attribué de manière absolument honteuse par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Jox, au Front National. C'est la plus grande manipulation médiatique, une des plus grandes manipulations médiatiques des 50 dernières années, à Carpentras. Eh bien, ils reprennent là par une petite récidive, en quelque sorte, bon, qui n'est pas de la même ampleur, mais qui est une petite récidive, et sans aucun esprit critique, on relaie ça massivement. Je reviens à mon historique.
Vous qui donc travaillez contre les médias, moi j'ai le souvenir d'avoir eu des relations avec des journalistes du Monde notamment, parce que j'étais de gauche avant, et je me rappelle qu'à un moment, on avait, dans un cénacle restreint, annoncé ma mort. Parce qu'en réalité, le gars du Monde voulait que j'intervienne, il avait téléphoné plusieurs fois, le téléphone marchait plus ou moins bien, et il était tombé sur une dame qui devait en avoir marre qu'on lui demande Jean-René l'Admiral, et qui a dit « Monsieur l'Admiral, il est mort
!» Ah bah écoutez, vous êtes bien vivant.
Et il me dit « Mais mais comment ça se fait ?»« Mort et enterré, mais où ça ?»« Aux Invalides !»
C'est chic.
Voilà. Je lui dis, écoutez, Jacques, j'aurais préféré le Panthéon.
Non, les Invalides, c'est mieux.
Alors, lui, il est arrivé dans un groupe privé, il a dit, notre ami l'admiral, etc. Et j'ai eu droit à une minute de silence. Mais là, c'était pas de la désinformation, c'était un cafouillage. Et le journaliste, qui était un type très bien, m'a dit, là, comme c'était des amis, un ami, j'ai pas tenu à la déontologie journalistique, une information tout de suite contre vérifier l'information. Ouais. Alors que là, c'est non seulement manque de déontologie professionnelle, mais c'est une disponibilité idéologique. Hein, dans le cas précis, pas dans mon cas.
Oui, vous écoutez Radio Courtoisie.
Oui, tout à fait. Alors, si je reviens à l'histoire des bobards, des meilleurs bobards parmi ceux qu'on présentera, on en présentera un qui est vraiment tout à fait charmant.
Mais rappelez peut-être... Allez-y, je vous ai coupé. Parce qu'il y a plusieurs rubriques, etc. Oui,
oui alors...
On y reviendra après.
Voilà, donc il y aura...
Là, c'est une mise en appétit.
Voilà, c'est une mise en appétit. Il y en aura un autre qu'on citera, qui est un bobard, lui, cette fois, de radiophonique sur la Radio France, qui était deux jeunes femmes féministes qui ont fait tout un reportage pour expliquer... On sait pourquoi les hommes sont plus forts que les femmes. Vous savez que la masse musculaire des hommes, en moyenne, est supérieure à la masse musculaire des femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme sportive n'aura pas une masse musculaire supérieure à un homme moins sportif.
Comme moi.
Voilà. Mais voilà. Donc, pourquoi les hommes ont une masse musculaire, sont plus forts que les femmes? Eh bien, parce que à l'époque du paléolithique, ils accaparaient la viande. Voilà. Ils accaparaient la viande. Alors, elles se basaient sur des études absolument fantaisistes et elles ont fait tout un numéro là-dessus. C'est le bobard, préhistorique.
Et il y a tout un bouquin là-dessus. L'auteur s'appelle Cynthia quelque chose. J'ai oublié les noms de famille. C'était déjà passé à Radio Courte, au Bobard d'Or, si je ne m'amuse.
Oui, absolument. Oui.
Et la charmante Gabrielle Cluzel avait apporté la réponse définitive. S'ils ont pu accaparer la viande au néolithique, c'est qu'ils étaient déjà les plus forts. Ce qui est évidemment la mise en évidence de la stupidité.
Oui.
Parce que l'idéologie, la mise en condition idéologique, est en même temps un abrutissement.
Oui.
Et qui présuppose et renforce un abrutissement. Parce qu'il est clair qu'effectivement, la réponse de Gabrielle Cluzel, comme d'habitude spirituelle, fine et précise, suffisait à réduire cet argument à rien du tout. Alors qu'effectivement, il y a un certain dimorphisme sexuel.
Oui.
En faveur de la masse.
Comme dans beaucoup d'espèces animales, si
je puis me permettre. Les meilleurs, c'est les araignées, où la femelle est 20 fois plus grosse que le mâle et le mange après la copulation.
Oui, absolument, oui. Oui, oui.
Alors là, heureusement, on n'en est pas là, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Chez l'aigle aussi, la femelle est plus grosse que le mâle.
Chez qui ?
L'aigle.
Oui.
Oui, il y a des... Mais enfin, le dimorphisme sexuel est répandu dans la nature de manière absolument massive.
Voilà. Ce sont des exceptions.
C'est pourquoi il y a un dimorphisme sexuel immédiat et total, c'est les organes génitaux.
Oui.
Hein, s'il n'y avait pas de dimorphisme sexuel, plus personne ne serait là.
Ne pourrait en parler.
Voilà.
Ne pourrait le nier.
Voilà.
S'il n'y en avait pas, on ne pourrait pas le nier, oui. Alors, si vous voulez, on va... Là, il y aura quelques interventions dont je vais vous parler. On va présenter une sélection des meilleurs bobards que vous avez pu voir. J'en ai cité un que vous-même vous avez vu. Et il y aura des votes pour élire en quelque sorte le bobardissime, le bobard des bobards, le bobard d'or plus que d'or, puisque c'est un bobard d'or qui sera sélectionné parmi les bobards d'or. Quoi.
Alors,
c'est
vraiment
une superbe sélection. Donc il y a une espèce de rétrospective, et puis on analysera aussi...
Jean-Yves Gallo, peut-être rappeler comment ça s'organise. Il hein.
Bah,
y a différentes rubriques, etc. On présente. Parce que, bon, moi j'y vais souvent.
Oui.
Alors, il y a plusieurs rubriques. On présente les bobards avec à l'écran. Enfin, voilà.
On présentera.
Alors, il y aura combien de rubriques, par exemple?
Non, il n'y aura pas de rubriques cette année. mais il y aura une série de votes qui permettront de choisir le bobard, en quelque sorte, historique, qui l'emporte sur tous les autres. On traitera quand même certains bobards plus contemporains. On abordera celui sur les chansons de Carpentras. On pourra aussi aborder les bobards auxquels a donné lieu, mais c'est plus triste et donc ça se prête moins à sourire, la mort de Quentin de Ranque.
Et
il y a eu quelque chose de particulièrement
ignoble.
Épouvantable, ignoble, là qui n'a pas été sur le service public, était sur BFM TV, qui est un reportage qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, donc qui est assez récent, où...
L'ignorance ne peut pas être invoquée dans ce cas-là.
L'ignorance ne peut pas être invoquée, et si vous voulez, où ils ont présenté des images de police qui suivaient un groupe violent avant le meurtre de Quentin. Et le texte du reportage est tellement fait, tellement bien fait ou tellement mal fait, qu'on croit...
Qu'on laisse croire
que le groupe violent qui est suivi par la police, c'est celui des amis de Quentin, alors que ce n'est pas celui des amis de Quentin, c'est celui des meurtriers de Quentin. Et c'est repris ensuite par une partie de la classe politique, en l'occurrence, là ce n'est pas M. Édouard Philippe qui surfe là-dessus, mais c'est les gens de la France insoumise qui disent, voyez, on nous a menti, ce sont eux les agresseurs. Et c'est repris, à ce moment-là, à nouveau, par des médias. Donc vous voyez, même sur des faits tragiques et correctement établis, eh bien, il y a une volonté de mensonge. Et je pense qu'il y a une progression dans le mensonge par rapport... au moment où nous avons créé la cérémonie des Bobards d'Or, donc il y a 16 ans maintenant, puisque c'est la 17e cérémonie, ils mentaient pour servir le politiquement correct, mais par facilité, par absence de vérification, aujourd'hui, ils fabriquent ou relaient délibérément des fausses nouvelles. Voilà. Typiquement, sur l'affaire de Quentin, ils ont relayé des fausses nouvelles. Sur l'affaire du 8 mai à Carpentras, ils ont relayé des fausses nouvelles. Et ils le font, je pense, de manière absolument délibérée, parce qu'on apprend dans les écoles de journalistes, et les jeunes journalistes, de ce point de vue-là, sont pires que ceux que nous avons pu connaître par le passé. On leur apprend qu'ils doivent servir le bien, qu'ils doivent servir une juste cause, et par conséquent, ils mentent en toute bonne conscience, puisque c'est pour le bien.
Vous écoutez Radio Courtoisie, Paroles et Pensées, l'émission de Jean-René Ladmiral, assisté de Nicole, et dans la série Entretien politique, nous parlons aujourd'hui des Bobards d'Or, qui est une critique parodique de la désinformation médiatique, et notre invité est Jean-Yves Le Gallou, président de Polemnia et cofondateur de l'Institut Iliade. Et nous en parlons à propos de la soirée des Bobards d'Or qui a lieu le 20 mai. C'est un quel jour de la semaine ?
Mercredi, c'est un mercredi soir, mercredi 20 mai.
Mercredi 20 mai, de 19h30 à 23h, dans la salle Athènes, 8 rue d'Athènes, Paris 9e, métro, c'est Saint-Lazare ou Trinité.
Voilà, peux inviter nos auditeurs à s'inscrire, donc aller sur le site de Polemnia et à faire la billetterie. S'ils ne le peuvent pas, ils peuvent venir sur place, mais comme la salle, vous l'avez dit,
est plus exiguë,
je pense que c'est mieux de s'inscrire et d'aller sur le site Polemnia pour s'inscrire directement à la soirée.
Je voulais dire en plus à propos de M. Le Gallou, son livre « Remigration » aux éditions Iliade.
Un de ses livres récents.
Le dernier, oui.
Le dernier. Bon, voilà.
Mais là, nous parlons des Bobards d'Or aujourd'hui.
Voilà. Mais dans le même esprit... Alors oui, il faut recommander aux auditeurs de s'inscrire, pour pouvoir y assister vraiment, parce qu'ils passeront un bon moment. Comme je l'ai indiqué au début d'émission, pour moi ce sera la 7e ou 8e fois que je viens. Je viens par militantisme et surtout par plaisir.
Voilà.
Et alors, faisant écho au sinistre épisode auquel vous avez fait référence, je voudrais faire référence à un autre épisode beaucoup moins grave, moins sinistre, hélas, mais qui montre la collusion de l'appareil d'État avec la désinformation. C'est la mort du petit Clément Méric. Il y avait deux travailleurs manuels, d'origine d'ailleurs hispanique, qui achetaient il y avait un surplus de vêtements militaires, enfin bon. Et vous savez, il y a des gens qui achètent des trucs comme ça. Et il y avait une bande de gauche qui se massait pour les agresser. Et ils ont été prévenus, et ils ont fait attention, mais finalement, quand même, ils ont été agressés. Et un de ces jeunes assez costauds qui venait acheter, qui était de droite, oui, et d'origine espagnole, un immigré, voulait acheter ça. Et alors le petit Méric, qui est un gringalet agressif, l'a attaqué par derrière alors qu'il se défendait contre d'autres. Comme c'était un cavalier, il l'a envoyé promener, et l'autre est allé se taper la tête et il est mort. C'est devenu un crime, alors que c'est la juste récompense de son agression. Et les parents étaient des gens de gauche, des profs ou je ne sais pas quoi, et le tribunal n'a pas tenu compte de tout un ensemble de données qui étaient pourtant disponibles. Et là, il y a une collusion, non seulement du pouvoir, mais de l'institution judiciaire, que oui. Je n'appellerai pas la justice, non. L'institution judiciaire.
Alors, vous avez tout à fait raison dans cette affaire qu'on a traitée à l'époque. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des cérémonies qui en ont parlé. Il y a eu une connivence entre le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire pour déformer les faits et présenter ce qui a été une mort malheureuse, accidentelle, de la part de quelqu'un qui était de fait en légitime défense, puisqu'il était agressé
par derrière,
alors qu'il se défendait, et ça a été présenté comme un meurtre, et avec les condamnations et un assassinat qui vont avec. Et il y a eu une connivence entre le pouvoir médiatique et le pouvoir judiciaire, et je peux dire, en l'occurrence, le pouvoir judiciaire a rendu une justice à la fois idéologique et une justice de classe, oui. puisqu'il a distingué le jeune homme issu de la bourgeoisie et militante à gauche du jeune homme issu du prolétariat et militant à droite.
Enfin, et il y a donc eu... Peut-être pas militant, de sensibilité de droite.
Il achetait... Il achetait des fringues, assez drôlement d'ailleurs, ce sont des fringues qui sont achetées par les deux milieux, c'est-à-dire les deux milieux un peu skin rouge.
Genre,
skin,
c'est surtout américain, tout
voilà,
comme ça.
Oui, je ne retrouve plus le nom, Perry, voilà. Voilà, c'était des fringues qui s'appellent d'une marque Perry, voilà. Oh. Qui est une marque assez chic par ailleurs, voilà.
Et toujours pour rebondir et puis faire un changement de voix, parce que le centre de l'émission, c'est évidemment vous, Jean-Yves Le Gallou, et les Bobardeurs, mais je pense à une formule de Vladimir Fedorovski à propos de la désinformation politique actuellement, géopolitique actuellement. Il dit, les gens, il y a 20-30 ans, quand c'était la guerre froide, les gens mentaient. Il y avait de la désinformation massive, surtout d'un côté, mais de l'autre côté aussi. Mais il dit maintenant, le plus grave, c'est que les gens croient à leurs propres mensonges. Croient à leurs propres mensonges, donc le risque est grand, c'est risqué. Et alors ça me fait penser à une remarque d'un prosateur journaliste viennois dont le nom m'échappe, qui disait, les politiques... donne des informations aux journalistes et après ils croient aux journalistes parce que Et oui, c'est comme, vous qui êtes cultivé et qui êtes moins dégradé que moi, vous souvenez-vous ce grand journaliste, ce polémiste de Vienne enfin bon, c'est pas grave. Hein,
non, mais par contre, il y a effectivement un phénomène de rétroaction. C'est-à-dire que on croit les mensonges qu'on diffuse et qu'on entend. Il y a un phénomène d'accumulation.
Voilà. Et ceux qu'on mentit finissent par croire, c'est ce que disait Vladimir Pedrovski en disant c'est extrêmement dangereux sur le plan, sur le plan géopolitique, ça vient encore au-delà de ce que nous sommes en train de dénoncer, parce que on fait état de menaces de guerre qui sont parfois imaginaires, parfois hypothétiques, et on les prend pour argent comptant, si bien que ça justifie une sorte de contre-attaque préventive qui est tout simplement une agression.
Oui, absolument.
Ce qui est un peu ce qui se passe à propos, ce qui s'est passé à propos de l'Iran.
Oui, tout à fait.
On a dit qu'ils prépareraient la bombe atomique, une attaque, que sais-je, et ça a déclenché l'opération qui, d'ailleurs, ne va pas, l'opération israélo-américaine, qui d'ailleurs ne semble pas donner les résultats espérés par ces deux agresseurs.
Non, parce que là, on sort un peu de notre sujet, mais l'Iran est un grand pays, une grande civilisation. Alors on peut, c'est sûr, déplorer le fait qu'il soit placé sous la dictature des mollahs, mais que ce soit un régime certainement peu recommandable. Mais derrière cela, il y a un vieux peuple, il y a une vieille civilisation, il y a une vieille culture. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut renverser avec une pitchnette, quoi, d'ailleurs. Et de surcroît, ils ont une situation géographique, stratégique, avec le détroit d'Ormuz. Honnêtement, tout le monde pouvait le connaître, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'une des plus belles bandes dessinées des années 50, c'est Le Secret de l'Espadon.
Ah oui.
De
Hergé.
D'Edgar P. Jacobs.
Oui, d'accord.
Et le centre, une partie de l'aventure se déroule précisément dans le détroit d'Ormuz, qui est une zone stratégique, enfin, une des grandes zones stratégiques du monde. Ça doit être connu, a priori, de tout géopoliticien un peu sérieux, et même de tout lecteur de bande dessinée.
Voilà. Il arrive que les gens ne lisent ni, même pas des bandes dessinées. Il semble que Drum se vante de n'avoir jamais lu aucun livre.
Ah, je ne sais pas, peut-être.
Et j'ai entendu ça, mais enfin, bon.
Bon, il a d'autres qualités, hein. Il a des défauts et des qualités.
Comme
voilà.
Chacun de nous.
Voilà, comme chacun de nous. Il a fait, honnêtement, un assez bon ménage dans l'état profond américain. Bon, il n'est pas certain que son aventure iranienne soit le sommet
avantage
de sa carrière. Voilà, mais il a fait du boulot quand même, voilà.
Oui, bien sûr. Bon, mais alors, là, on est en train de parler de la prochaine séance, prochain épisode des Bobardors. Peut-être, si vous voulez, Jean-Yves Le Gallou, comme je travaille avec un collègue qui s'appelle Jean-Yves Masson, Jean-Yves Le Gallou, si vous voulez rajouter quelques mots, sinon on peut aussi commencer à faire un peu le lien avec les Bobardors en général, d'autant que la séance de mercredi prochain, mercredi prochain, comporte une partie de rétrospective. Si.
Voilà, alors il y a la partie rétrospective, il y aura des interventions, notamment il y aura Éric Morillo qui travaille sur TV Liberté, qui fera une intervention sur les médias alternatifs, donc qui sont quand même ce qui permet
la petite chance qui reste à la France,
la petite chance qui reste de faire entendre la voix. Il y aura Pierre-Alexandre Bouclet, le président de Radio Courtoisie, notre président qui interviendra. Lui aussi. On aura Chanot qui interviendra, qui lui aussi a fait des livres critiques sur les médias. Donc il y aura un encadrement, en quelque sorte, intellectuel de la cérémonie elle-même pour placer les Bobardors dans l'ensemble du combat contre la désinformation. On reviendra aussi sur le rapport à l'oncle, que moi j'ai beaucoup apprécié, parce qu'au fond, nous, ce que nous disons avec les bobardors, et ce que nous allons redire, c'est que les médias font de la désinformation, en partie les médias, en particulier les médias de service public. Et à l'oncle a démontré en plus qu'il y avait une forme de privatisation du service public, avec des organismes privés qui piochaient dans la caisse du service public pour ensuite, je pense à M. Pigas par exemple et à sa société, pour ensuite faire de la propagande sur d'autres médias, et qu'il y avait derrière les intérêts idéologiques des gens qui font les médias de service public des intérêts matériels, parce qu'ils se servent très généreusement au passage. Ça, nous n'avions pas traité cela dans les bobardors, on traitait le fond. Eh bien, le rapport à l'oncle, lui, traite aussi les arrière-cours. Voilà.
Voilà, la petite corruption, où on propose de privatiser la personne qui est responsable des missions, propose de la privatiser, et ensuite est engagée pour faire les missions dans le privé, où elle est grassement payée, en plus de ce qu'elle touche déjà auprès du service public.
Oui, et il y a 1 milliard, sur les 4 milliards que payent les contribuables, il y a 1 milliard qui sont délégués à des sociétés de production privées, dont MediaOne, la société de production de Pigas, qui, par ailleurs, fait fonctionner des médias alternatifs d'extrême gauche. Donc, il se sert de l'argent public pour faire tourner sa société, qui ensuite fait tourner des médias encore plus à gauche, en quelque sorte, que le service public. C'est une chose qui est quand même particulièrement révoltante.
Vous écoutez Radio Courtoisie.
Une seconde, alors nous allons écouter.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, alors, pour revenir, vous venez d'indiquer qu'il y aurait un ensemble d'interventions de fond au Bobardor de mercredi prochain, mais je dois dire
mercredi 20 mai, hein, pas mercredi prochain.
Mercredi 20 mai.
20 mai, hein.
Ah, excusez-moi.
Mercredi 20 mai, hein, pas mercredi prochain, mercredi c'est prochain, mercredi 20, en 8, voilà.
Mercredi en 8, oui. Voilà. C'est le grand âge, ça y est. Vous avez indiqué qu'il y aurait des interventions de fond, mais je dois préciser que dans les autres épisodes des bobardors, il y avait pour chaque bobard, un ensemble de commentaires qui étaient humoristiques, mais informatifs aussi, puisque concrètement, la chose se présente ainsi. Je voulais vous le faire dire, mais je le dirai, vous me corrigez.
Mais dites-le.
C'est que on présente oralement les bobards, on l'annonce. À ce moment-là, on affiche sur écran les données, les corpus delicti. Et puis ensuite, il y avait des commentaires ironiques qui intervenaient. Et là, ce que vous dites, c'est que sans doute la formule reste valable, mais qu'en même temps, les commentaires seraient plus des commentaires de fond.
Oui, voilà, il y aura plus de commentaires, dont d'ailleurs celui de Pierre-Alexandre Bouclet, puisque c'est fait aussi en partenariat avec cette cérémonie cette année, et fait en partenariat avec certains acteurs de la réinformation, certains médias dissidents, certains médias alternatifs, dont Radio Courtoisie.
Et alors, pour poursuivre l'émission, donc on fait un retour sur les émissions, enfin les épisodes précédents. Et puis alors, indiquez aussi, vous aviez publié un livre qu'à ce moment-là j'avais acheté, qui était un album de rappel. Alors, pardonnez mon grand âge, j'oublie tout, mais je me souviens du livre qui est très bien, vous allez peut-être nous en dire quelques mots.
Il nous en reste encore quelques-uns, c'est l'album des bobards que nous avions sorti au 10e anniversaire, et donc qui rappelle à la fois toutes les cérémonies, enfin les 10 premières cérémonies, et qui rappelle les principaux bobards d'or, les principaux titulaires de Bobard. Évidemment, on retrouvera Patrick Cohen, qui lui a fait une série de Bobard particulièrement... pas drôle d'ailleurs, parce que c'est lui qui a fait notamment les Bobards sur Crépole, en expliquant qu'en gros, les jeunes rugbyman qui avaient été agressés par les racailles qui venaient de la Cité de la Monnaie à Romans, finalement, l'avait quand même un peu bien cherché, quoi. Voilà. Vraiment ignoble. Donc, Patrick Cohen, qui est quand même bien connu de nos services, sera aussi à nouveau à l'honneur pour cette cérémonie. Je dois dire que Patrick Cohen, la plus belle distinction qu'il a eue, c'est une muselière d'or qu'on lui avions remis au début des Bobards d'or, parce que lors d'une émission où il était en débat avec Taddeï, il avait eu un affrontement avec Taddeï et avec la journaliste qui les présentait, en disant « Mais vous n'avez pas le droit de dire cela, vous n'avez pas le droit de penser cela, il y a des lois ». Contre cela. C'est-à-dire qu'il avait extrapolé les lois actuelles qui limitent effectivement la liberté d'expression
et de
à la liberté de penser.
Oui.
C'est-à-dire, à l'intérieur de vous-même, vous n'avez pas le droit de penser des choses qui pourraient plaire à M. Patrick Cohen. Il avait fait une assez belle avancée qui lui avait valu à l'époque une muselière d'or. Donc il est multidécoré, ce garçon.
D'ailleurs, il prenait à la lettre une certaine formulation traditionnelle. On réclame, on demandait, la tradition libérale demandait la liberté de penser. La liberté de penser, c'était aussi de dire ce qu'on pensait.
Oui, bien sûr.
Et il y a un fameux texte de Kant sur qu'est-ce que c'est les Lumières, où il explique qu'on peut penser tout ce qu'on veut dès lors qu'on argumente et qu'on a la possibilité de le publier, donc le soumettre à la critique. Et comme vous savez, Kant, c'est un peu le grand...
Je pense qu'un des éléments les plus fondamentaux de la civilisation européenne, dans la longue durée, parce que vous citez Kant, mais on retrouve au Moyen-Âge la disputatio, la confrontation d'opinions contradictoires. On retrouve ça aussi chez les Grecs, on les retrouve... chez Platon, où on organise la discussion sous forme de dialogue, de confrontation d'idées. Donc, l'un des fondements de la civilisation européenne, c'est le fait de pouvoir discuter de choses contradictoires et d'accéder à la vérité, en dehors des dogmes religieux qui sont révélés, d'accéder à la vérité par la confrontation d'opinions contradictoires. Et actuellement, on est dans une formidable époque de régression parce que on est sur la logique où on ne dit plus « vous avez tort » ou « je pense que vous avez tort ». On dit en pointant un doigt accusateur « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Vous n'avez pas le droit de dire ça. Eh bien, si, on a le droit de dire ça et on a le droit de dire le contraire, bien sûr. On a le droit de confronter les opinions. Et là, nous vivons une régression civilisationnelle.
Et ce conditionnement idéologique ruisselle dans la population, parce que dans les débats, moi je suis d'origine universitaire, donc c'est pas toujours facile, et des phrases que j'en ai souvent, tu ne peux pas dire ça.
Tu ne peux pas dire ça.
Tu ne peux pas dire
ça. Moi, ça me scandalise.
Je dis, je peux le dire, je veux le dire,
je pense. Et je dois le dire.
Et voilà. Oui, je vais ajouter ça.
Ouais.
Et en général, j'ajoute, et je t'emmerde. Parce que, enfin, c'est
il y a une sorte alors, de... vous avez raison, il y a une régression en particulier dans le monde universitaire, qui devrait être le monde de la confrontation d'opinions contradictoires et qui devient un monde tout à fait totalitaire.
Oui.
Tu ne peux pas dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça, mais si, bien sûr que si.
Non seulement je peux, je veux, je dois. Je le fais. Et voilà. Et d'ailleurs, moi qui suis universitaire, heureusement, au début, quand j'étais jeune, je travaillais beaucoup sur l'école de Francfort. J'ai traduit, c'est moi qui ai introduit Habermas, qui l'ai traduit, etc. Et donc, j'ai une image de gauche. Et alors, comme je dis, mais il faut que je la soigne, mon image de gauche, parce qu'entre-temps...
Elle s'est dégradée.
Je suis plus du tout de gauche. Que dans mon milieu, il ne faut pas trop que je l'ai. Il faut que je les laisse un peu continuer à avoir un effet de rémanence imagologique. Mais c'est très pénible, parce que je sais que souvent, je m'interdis d'intervenir. Je vais prendre un épisode, je me permets des épisodes.
Allez-y,
parce que
oui.
J'ai un ami proche, qui est mort hélas, qui travaille dans le milieu franco-autrichien, et il avait organisé une grande table ronde franco-germano-autrichienne à l'époque de Jörg Haider. Vous savez, on va en dire quelques mots. Jörg Haider, c'était un leader politique autrichien qui avait beaucoup de succès et qui était classé extrême droite. Oui. Et alors, on va revenir sur la suite. Et alors, il y avait un débat. Et alors, tout le monde, dans cette table ronde, cette salle, tout le monde était scandalisé par le fait que Jörg Haider ait été élu, eu 20% de... 20%. Et mon camarade, mon ami qui m'aime bien, qui est un ami proche, mais qui était de gauche, il me faisait toujours venir dans les réunions parce que j'étais le gars de droite. Hein. Et alors, je vois bien qu'il échangeait des regards de mon côté avec un sourire. Déjà, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire Jean-René ? Et dans ces cas-là, je me dis où je prends le contre-pied de ces gens-là ? Et c'est une sorte... D'abord, c'est inefficace et c'est un suicide sociopolitique. Ou alors, je me tais, mais là, je suis un lâche. Et en général, je trouve une astuce. Et là, je dis, mais écoutez, je suis comme vous. Je suis terrorisé à l'idée que 20% des 2 millions d'Autrichiens ne déferlent sur notre belle Europe et nous interdisent de donner du sang contaminé, de la vache folle, etc. Et là, il y a eu un silence, parce que c'était intéressant de voir, à partir du moment où je ne disais pas que j'étais contre ou pour, à ce moment-là, on ne comprenait plus. On ne sait pas ce qu'il dit. Et c'est ce que m'a dit un ami, tu sais, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Parce que si c'est intelligent, ils ne sont pas habitués.
Oui, c'est vrai. Alors, pour prolonger sur l'Autriche, aujourd'hui, le parti auquel appartenait Jörg Haider, il est à 38% dans les sondages. Et donc, il est aux portes du pouvoir. Et c'est un parti qui est sur une ligne non seulement de critique de l'immigration, mais de remigration. Voilà. J'en profite pour dire...
J'en profite pour dire que Jörg Haider a été assassiné. C'était un type...
Il est assassiné. Il a eu un accident de voiture.
On dit. Mais ouais. Il a eu un accident de voiture dans l'état d'ivresse. C'était un homosexuel très épris de son corps, qui ne buvait jamais d'alcool. Il y a une sorte de narcissisme corporel. Ouais. C'est donc exclu. Et donc, on termine sur un petit assassinat. Et c'est sur... là-dessus que je vais remercier Jean-Yves Le Gallou d'être venu nous parler des Bobardors et de nous annoncer la prochaine cérémonie, prochain épisode, mercredi en 20 mai. Et je remercie Nicole de nous avoir apporté sa voix mellifluée pour soutenir le militantisme.
8 rue d'Athènes.
Voilà, merci. Merci à tous, merci Jocelyn et à bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre Paroles et pensées de Jean-René Lannemire à l'assisté de Nicole, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, lundi 11 mai 2026 de 10h à 11h et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.